Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort ? Cette semaine, deux personnalités, deux athlètes, deux êtres hors du commun, devrais-je dire. Usain Bolt d'un côté et Carl Lewis de l'autre. On va s'intéresser à cette question qui est le plus grand sprinter entre les deux. Pour débattre de cette question aujourd'hui, trois invités autour de la table, autour du micro, devrais-je dire. Stéphane Caristan d'abord, ancien athlète, hurdler, préparateur physique et consultant Eurosport. Bonjour Stéphane.
Bonjour Adrien.
Maxime Dupuis et Laurent Vergne, qui sont tous les deux journalistes à la rédaction d'Eurosport. Salut messieurs.
Salut Adrien.
Bonjour à tous.
Cette émission est à retrouver en podcast et en intégralité sur toutes les bonnes plateformes, de d'Acast à Spotify, en passant par Deezer ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser des commentaires. On commence tout de suite, messieurs. Carl Lewis, Usain Bolt. Pas facile de départager les deux hommes, surtout quand on évoque leur carrière. Alors, il y a le palmarès, il y a l'aura, il y a l'émotion qu'ils ont procurée, il y a tout ça un petit peu qui entre en compte. Stéphane, toi, tu as choisi de défendre Usain Bolt. Maxime, tu as choisi de défendre Carl Lewis. Et Laurent, tu as choisi de défendre Usain Bolt. Mais à chaque fois, on pourrait rajouter une petite astérisque parce qu'il y a un mais. Stéphane, pourquoi Usain Bolt, pour toi, est le plus grand ?
Messieurs, tout simplement parce qu'il a réalisé dans l'absolu 3 triplés consécutifs aux Jeux Olympiques en 2008, 2012 et 2016 avec le 100, 200 et 4x100, les épreuves vraiment typiques du sprint, même s'il a perdu une médaille sur tapis avec la disqualification du relais en 2008 pour la Jamaïque. Mais voilà, c'est l'argument majeur d'avoir vraiment créé quelque chose d'inégalé, de jamais fait auparavant. Et surtout d'avoir marqué l'histoire avec des records du monde à la clé à chaque fois.
Maxime, toi, c'est aussi le palmarès qui t'a fait pencher pour Carl Lewis ou c'est autre chose ?
Alors, je vais essayer de le faire court hein, pour mon premier passage. Oui, il y a le palmarès, évidemment, parce que c'est pas anodin. On n'est pas 9 fois champion olympique par hasard. Mais il y a aussi tout ce que dégage Carl Lewis, c'est-à-dire même une ère révolue des années 80, par sa recherche de la perfection, par son style, par tout ce qu'il y a autour et pas seulement sur la piste, parce que je pense que ça reste dans les années 80 avec notamment Mike Tyson, c'est un athlète d'exception, si ce n'est le plus grand athlète des années 80.
Laurent, toi tu as choisi Usain Bolt, mais tu aurais pu choisir Carl Lewis aussi.
Bah, si j'avais écouté mon cœur, j'aurais choisi plutôt Carl Lewis parce que voilà, moi les premiers jeux dont je me souviens, c'est les Jeux de Los Angeles, donc forcément j'avais été très très marqué par Carl Lewis en 84. Maintenant, on parle du sprinter et je rejoins Stéphane. Je ne suis pas de ceux qui aiment mettre tout le temps les palmarès en avant, mais à un moment donné, autant pour moi, il n'y a pas que les palmarès qui comptent. Autant là, quand on parle de sprint, jamais personne n'avait été 3 fois champion olympique du 100 mètres. Usain Bolt l'a été. Et jamais personne n'avait été 2 fois champion olympique du 200 mètres. De 1900, la première édition du 200 aux Jeux. À 2004, on a 24 champions olympiques différents du 200 mètres. Et après, 2008, 2012, 2016, 3 fois Bolt. D'ailleurs, le 200, c'est vraiment sa spécialité. On en reparlera sûrement. Mais ouais, ces 3 triplés-là, pour moi, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Je ne suis pas sûr qu'on le revoie de sitôt ou de notre vivant. Donc oui, la dimension du palmarès le met en avant par rapport à Lewis. Mais il y a un mais quand même, parce que si on avait parlé du meilleur athlète, voilà, moi j'ai toujours eu un petit regret de voir Bolt ne pas s'essayer, par exemple à la longueur, peut-être que ça n'aurait rien donné, je pense que ça n'aurait pas donné grand-chose, mais Carl Lewis, c'est quand même 4 titres olympiques à la longueur, donc ce n'est pas qu'un sprinter. Et c'est le petit mais que je mettrais, mais on y reviendra plus en détail.
Ouais, vas-y Maxime.
Je peux me mettre juste d'ajouter que Lewis est 3 fois champion du monde du 100 mètres aussi, comme Bolt.
Oui, bien sûr. Je suis d'accord, mais il reste quand même que si on regarde le sprint, voilà, il y a une différence de palmarès entre les deux.
Ouais, après, c'est vrai qu'on se focalise énormément sur les Jeux Olympiques, mais comme tu le dis, Maxime, il y a les championnats du monde également qui entrent en compte. C'est un palmarès, sont comme le roi, l'un comme l'autre. Est-ce qu'on peut mettre autre chose que ça? Tu parlais, Maxime, de l'aura. C'est quelque chose qui a marqué aussi bien les années 80 que les années 2010-2020. À quel niveau, là, on peut faire une différence?
Pour moi, c'est marrant parce que Carl Lewis qui arrive dans les années 80, on va dire qu'il devient, j'allais dire, célèbre et grand avant Tyson, avant Jordan, qui n'a pas mis un pied en NBA encore quand Carl Lewis est quadruple champion olympique à Los Angeles. Moi, j'ai toujours une image pour parler de Carl Lewis, c'est que dans les années 80, c'est un peu le Michael Jackson de l'athlétisme. C'est vraiment l'espèce de star globale. Alors, paradoxalement, peut-être moins célèbre aux États-Unis que dans le monde entier, mais c'est quand même une star globale. Et il y a ce côté Lewis, parce qu'il a la gueule de l'emploi, pour le coup, et son visage est massier, son style félin, il vole sur la piste, il y a une beauté technique. Il est dans la recherche de la perfection constante et c'est tout simplement un athlète magnifique à voir. Donc, je pense que ça a fait beaucoup, beaucoup pour lui parce que, encore une fois, voir Lewis courir, c'est pas un ballet, mais c'est fantastique. Voilà. Ce qui fait, à mon avis, aussi la grandeur de Lewis à ce moment-là. Et pour moi, ce qui a manqué un peu Bolt, mais c'est pas de sa faute parce qu'il était un peu seul sur sa planète. Évidemment, il y a Gatlin, il y a Yuan Blake, mais il lui manque quand même une adversité de taille. C'est-à-dire que pour moi, bah, évidemment, c'est le duel face à Ben Johnson. On sait que ça s'est pas bien terminé, mais il y a quand même cette rivalité qui fait que ça met encore plus en avant la personne qui finit par remporter ce duel. Et là, pour le coup, Ben Johnson était formidable. Et puis, on peut aller un peu plus loin aussi au niveau de la densité. C'est toujours difficile de comparer, comment dire, les densités. Et quand je vois la finale de Tokyo de 91, qui pendant quasiment 30 ans est restée la plus vite de l'histoire, puisqu'il y avait 6 coureurs en dessous des 10 secondes, c'est Dennis Mitchell, c'est Linford Christie, c'est Leroy Burrell. Il faut se rappeler qu'avec Leroy Burrell, ils s'échangent les records tout le temps dans les années 80-90, surtout 90. Et Frankie Fredericks. Donc, il y a ça aussi qui fait que pour moi, Lewis mérite d'être mis très, très haut. Et je voudrais rajouter un dernier truc là-dessus. On parle des titres olympiques de Bolt, évidemment, c'est exceptionnel, je suis le premier à le dire. Moi, j'aurais très bien pu défendre Bolt, pour être tout à fait honnête, largement. Mais il y a un truc qui est une petite différence quand même, c'est que Lewis, il avait à chaque fois passé par des trials et on qualifiait que les trois premiers. Se qualifier, c'est un peu comme la Coupe d'Europe des clubs champions à la fin des années 80 en football. Il était presque plus difficile pour un club italien de se qualifier pour la C1 que de la gagner. Ben, moi, il y a un peu cette image-là avec Lewis, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un premier passage qui était hyper compliqué et qui fait peut-être qu'on l'a raté. Alors, je ne suis pas sûr qu'il aurait été champion olympique.
C'est pas pour ça qu'il était quand même, ouais. Il était quand même là à Séoul et il n'a pas été champion olympique sur 200 mètres, par exemple.
Oui, mais je pense que pareil, il n'aurait pas forcément été champion olympique à Barcelone. Mais c'était ouvert et je pense qu'il aurait eu quand même toutes ses chances. Donc, il y a toujours ce petit bémol là aussi au niveau des qualifs et de la façon d'aller en compétition.
Le bémol, c'est que Bolt, il a aussi des trials en Jamaïque et on sait que dans les années 2000, le sprint jamaïcain a effacé, même a mis en retrait le sprint américain. Donc, c'est dire quand même la performance. Et pour revenir un petit peu aux arguments, bien sûr, moi, j'ai le privilège d'avoir fait les Jeux de 84 et d'avoir vu l'avènement de Carl Lewis. Donc, c'est quelque chose, moi qui suis fan d'athlée, il avait rejoint la légende Jesse Owens. Et rien que pour ça, c'est un phénomène. Pour aller encore plus loin sur le cas de Carl Lewis, il a gagné 4 médailles consécutives en longueur sur 4 Olympiades, ce que seul Al Horter avait fait au disque. Donc, c'est un phénomène. Et le paradoxe pour moi, c'est que Carl Lewis est probablement le plus grand athlète de tous les temps, mais pas le plus grand sprinteur. Et c'est vrai qu'il a apporté la beauté, il a donné ses lettres de noblesse au sprint, parce qu'on avait les images des athlètes super structurés, très musclés. Et Carl Lewis, comme tu le disais, Maxime, il essayait de rechercher la perfection. C'était un modèle à montrer dans les écoles de sprint, dans les écoles d'athlétisme. Mais Usain Bolt avait quand même l'adversité avec la Jamaïque et les Américains un petit peu en retrait, mais qui voulaient reprendre le flambeau. Il y a ces 3 titres consécutifs. Et si on évoque les titres mondiaux, eh bien Usain Bolt, il a 11 titres, 11 médailles d'or mondiales, que Carl Lewis n'en a que 8, et toujours en longueur et en sprint. Donc, encore une fois, si on rajoute le palmarès mondial, en sprint, Usain Bolt enterre un petit peu plus Carl Lewis, entre guillemets, parce que encore une fois, Carl Lewis, ça a été une légende. Et j'ai eu le privilège, d'un autre point de vue, de commenter toutes les courses de Usain Bolt. Et Usain Bolt, c'est la révolution. C'est la révolution parce qu'en 2008, il bat le record du monde à New York le 31 mai. Et derrière, il y a les Jeux Olympiques. Et après le 100 mètres, il y a toute la presse qui se retourne et qui se dit qu'est-ce qui s'est passé. un gars d'1m96 qui révolutionne. On l'aurait mis en hauteur, au volet, au basket, peut-être sur les haies et encore. Mais un gars de ce gabarit-là, sprinter, et effacer, déposer les autres sprinteurs de cette manière, ça a été la révolution pour moi parce qu'il a apporté quelque chose en plus, au-delà de son charisme qui est impressionnant.
En termes de technique, justement, toi Stéphane, qui a eu justement la chance de voir éclore Carl Lewis et après commenter Usain Bolt, comme tu le disais, est-ce que chacun à sa manière a marqué et il y a eu un avant et un après Carl Lewis, un avant et un après Usain Bolt dans la manière de sprinter?
Oui, parce que Carl Lewis n'était pas le meilleur partant du monde, au contraire, il n'était peut-être pas très très explosif. Mais par contre, on se souvient, et ça a été un petit peu le langage, un abus de langage de l'époque, c'est quelle formidable accélération de Carl Lewis en fin de parcours, alors qu'on n'accélère pas du 80 au 100 mètres, on maintient sa vitesse, on décélère moins que les autres, mais lui, il avait cette technique qui lui permettait de moins décélérer et de donner une impression visuelle d'accélérer par rapport aux autres. Donc, par rapport à sa technique et à cette impression visuelle, il a vraiment marqué son époque, il a laissé une empreinte esthétique phénoménale, en plus de son talent, de son charisme. On l'a vu effectivement, Maxime, dans la chanson, il s'est essayé. Ça a été une superstar des années 80. Et c'est l'avènement aussi de l'athlétisme professionnel des années 80, il faut le savoir, notamment avec la confrontation Ben Johnson et la course à $1 million. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un avant et après Carl Lewis. Et Usain Bolt a apporté la même chose parce qu'il a apporté une image détendue. Lui, c'était communion avec le public. Enfin, c'était un showman. Il a été l'athlète de son temps.
J'ai une petite question. Mais est-ce qu'il peut vraiment y avoir un après Usain Bolt dans le sens où, moi, pour moi, c'est un ovni. C'est-à-dire que tu l'as dit, il est hyper grand. Il n'est pas dans les canons du sprint habituel. Est-ce qu'il peut quand même ouvrir une voie dans l'évolution du sprint?
Usain Bolt a apporté quelque chose et a donné la possibilité à des profils inhabituels. Et ça a montré quand même que l'athlétisme, pour ça, c'était universel. On savait qu'on avait tous les gabarits. Et là, on s'est aperçu que même en sprint, on pouvait avoir des gabarits très différents. On a eu des petits sprinteurs de poche. Et puis, on a eu à l'extrême un Usain Bolt qui a apporté quelque chose.
Laurent, tu aurais vu, toi, Usain Bolt s'essayer à d'autres disciplines? Parce qu'on parlait du meilleur sprinter, mais pas forcément… Enfin, du meilleur sprinter de tous les temps, mais pas forcément du meilleur athlète. S'il avait voulu, pu… On a longtemps parlé de voir Usain Bolt sur le 400 mètres. Il n'y est pas allé. Tu l'aurais vu aller sur d'autres disciplines, il aurait pu performer ailleurs.
Bah, ça a été un peu un fantasme pendant 10 ans, mais je pense que on a beaucoup parlé de la longueur, notamment. Il y a Mike Powell, je me souviens, qui avait dit, je crois que c'était après Londres, il avait dit, si je m'occupe de Usain Bolt, en gros, dans un an, il saute 9 mètres. Bon, Mike Powell connaît bien mieux sa discipline que moi, mais je suis quand même un petit peu sceptique. Je pense que Carl Lewis, c'était quelqu'un qui avait fait très tôt de la longueur. Je ne suis pas sûr qu'on pouvait, même avec les qualités exceptionnelles comme celle de Bolt, s'improviser sauteur en longueur comme ça, quasiment du jour au lendemain. Il faut déjà se souvenir d'une chose, c'est que Usain Bolt, quand débute l'année 2008, il n'a quasiment jamais fait de 100 mètres de sa vie. C'est incroyable. C'est un coureur de 200. Il courait en 20-25 à 16 ans. Il court en moins de 20 secondes, je crois, pour la première fois à 18 ou 19 ans. Mais il ne faisait pas de 100 mètres. Et il fait 10-03 au mois de mars 2008. Donc, on est 5 mois avant Pékin, avant son 9-69 de Pékin. Il court en plus de 10 secondes. Et d'ailleurs, ça a été quelque chose que Carl Lewis a mis sur la table assez vite, parce que ça, c'est aussi quelque chose dont il faudra parler. La petite pointe d'aigreur de Carl Lewis vis-à-vis du Usain Bolt, qui, moi, me gêne un petit peu parce que, ben, finalement, j'ai l'impression que c'est Lewis qui apporte la réponse lui-même. Bolt fait un peu d'ombre quand même à ce qu'il a été, cette star immense dont on a parlé. Il n'a pas arrêté pendant 10 ans de lui mettre des petits trucs comme ça, des petits bâtons dans les roues. Et la première critique de Lewis a été, dès Pékin 2008, dire, excusez-moi, mais moi, quelqu'un qui fait 10-03 et qui passe à 9-69 comme ça en quelques mois, ça devrait quand même semer le doute. Alors, peut-être, on a le droit de douter de tout, hein, surtout en athlétisme et notamment dans le sprint. Sauf que je pense que c'est un mauvais procès qui était fait à Bolt, parce qu'il n'était pas passé de 10-03 à 9-69 comme ça, par miracle, parce qu'il était dopé. J'en sais rien, mais évidemment, mais c'est surtout parce qu'il n'avait jamais fait de 100 mètres avant, donc on n'avait pas de référence. Ce n'est pas comme s'il avait fait 10-03 pendant 4 ans.
Donc ça, c'était. Il a amélioré.
Oui, et puis c'était, je pense, c'était un pur phénomène. Voilà, c'est un pur phénomène, comme Moi, ça fait partie de ces sportifs comme il y a eu Jordan, comme il y a Tiger Woods. C'est des gens qui révolutionnent leur discipline. Stéphane a avancé ce qui étaient mes deux arguments, m'a su aussi, c'est-à-dire effectivement, je pense que Carl Lewis est le plus grand athlète. Mais je pense que en termes de sprint, c'est très difficile pour moi de ne pas mettre Usain Bolt en numéro 1. Et il y a le côté révolutionnaire. Parce que Carl Lewis, finalement, si on regarde au niveau chronométrique, il a été très, très, très régulier sur 100 mètres et 200 mètres toute sa carrière. Mais voilà, il n'a pas battu le record du monde du 200. Il a battu le record du monde du 100. Mais finalement, tous ces athlètes dans les années 80, on était entre 9,83, 9,86, 9,90. Bolt, bien sûr, on est 25-30 ans après. Mais le bond de géant qu'a fait faire Bolt en termes de chrono, que ce soit sur 100 ou sur 200, c'est quelque chose, à mon avis, qui le rend très, très particulier aussi par rapport à Carl Lewis. Là, il y a quand même un avant et un après Bolt, comme il n'y a pas eu un avant et un après Carl Lewis. On savait que les records de Lewis, d'ailleurs, quand il arrête sa carrière, il n'a pas de record du monde, hein, même en longueur. Puisque, alors que c'était sa discipline phare, il a été invaincu pendant 10 ans et voilà, il y a ce concours à Tokyo où il est battu par Will Powell. Donc, c'est quand même une petite limite, je trouve, quand on porte un regard global sur ce qu'a fait Carl Lewis. Mais évidemment, que ce soit Maxime ou Stéphane et moi, dire ça de l'un n'est pas fait tant pour dénigrer l'autre que pour voilà, mettre les deux en perspective.
Ce qui est fascinant, justement, avec la chasse au record de Lewis, c'est que pendant sa carrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais voulu aller courir en altitude ou aller sauter en altitude. C'est en 83 où il y a la réunion de Colorado Springs où Calvin Smith va battre le record du 100 mètres. Bah, lui décide de ne pas y aller simplement. Pareil, il courra, je crois, un ou deux mois après, en 1975, sur le 200. Il n'ira jamais plus vite, en fait. Et ce qui est marrant, c'est cette recherche de la perfection, justement, et du geste ultime et du meilleur chrono, donc ce qui en découle, et d'avoir toujours voulu rester au niveau de la mer et dire « Moi, je battrai les records à ce niveau-là et je n'irai jamais chercher… on va dire un petit boost que je pourrais trouver facilement en altitude notamment. Donc il y a toujours ce côté qui est assez étonnant avec lui. Après, je rejoins Laurent pour le côté tout à l'heure ce qu'il disait avec autour de Bolt et de l'espèce d'erreur. C'est sûr que Lewis n'a pas été étouffé par son humilité déjà pendant sa carrière et puis après pour le coup. Ça, c'est sûr que je ne le mettrai pas son actif pour le coup.
Ça le dessert, ça, d'instaurer une espèce de suspicion, parce qu'il n'est pas forcément le mieux placé aussi pour en parler. Il y a eu de la suspicion aussi du côté de Carl Lewis.
Oui, il y a eu ce contrôle de 88 pendant les Trials où il est notamment à l'éphédrine, je crois, il y a plusieurs produits et on l'a appris en 2003 et que le comité olympique américain l'a, on va dire, blanchi, au moins l'a couvert pour qu'il aille, évidemment, on n'allait pas tuer la poule aux odeurs et le duel à venir face à Johnson. Donc c'est sûr que ça le dessert. Et de toute façon, globalement, ce qui dessert souvent, c'est quand on fait un peu l'autruche dans ces situations-là. Voilà, au mieux s'expliquer. Voilà. Mais c'est vrai que oui. Après, pour sa personnalité, moi, je trouve que c'est une personnalité. Alors, c'est bizarre de dire ça aujourd'hui, mais c'est une personnalité assez années 80, on va dire, où les sportifs n'avaient pas peur de dire ce qu'ils étaient et de bomber le torse. Voilà. Pour moi, c'est un truc qui colle un peu à l'époque. Voilà. Je ne sais pas si j'ai raison là-dessus, mais pour moi, c'est ça. Ce qui le dessert, en revanche, c'est ce que dit Laurent. C'est-à-dire que balancer. En fait, il a fait un peu, pour le coup, avec Bolt, ce qu'il avait fait avec Johnson 20 ans avant, c'est-à-dire on met de la suspicion. Alors, pour Johnson, pour le coup, évidemment, il avait raison. Mais pour Bolt, c'était peut-être pas la peine, au moins, peut-être au départ, dire bah, tout simplement ce gamin est formidable, il fait des trucs.
Puis, il n'y a pas eu que la question du dopage, oui. Parce qu'il y a encore eu une interview, je crois, l'année dernière dans l'équipe. Où Carl Lewis, en gros, disait « Oui, Bolt a eu une carrière formidable, mais l'athlétisme est en déclin depuis 20 ans. » En gros, depuis que j'ai arrêté l'athlétisme, il ne le dit pas comme ça, mais ouais, depuis 96 ou 97, il dit, on a compris. Et il dit « Oui, ok, Bolt, c'est une superstar, mais il lui reproche de s'être toujours préoccupé de sa propre grandeur plus que de celle de son sport. » Et il dit « Voilà, l'athlète, aujourd'hui, ce n'est pas l'athlète comme c'était de mon temps. » Et c'est vrai, mais je trouve que c'est gonflé de mettre ça sur le dos de Bolt. C'est un peu comme si on disait le tennis aujourd'hui va moins bien que dans les années 80 après Borg, McEnroe et compagnie. Il y a moins de gens qui le pratiquent, c'est moins regardé, le public vieillit. Tout ça est vrai, mais on ne va pas mettre ça sur le dos de Roger Federer qui est le contre-exemple de ça. Et pour moi, Bolt est le contre-exemple de ça. C'est probablement, même les gens qui ne s'intéressent pas à l'athlète depuis 15 ans, vouloir parler du Usain Bolt, je pense que ça fait tilt directement. Donc, tous les petits procès que Lewis colle un peu de façon pernicieuse sur le dos du Usain Bolt, je trouve qu'ils tombent tous à plat. Et ça, ça me gêne un peu.
C'est le dessert, vraisemblablement. Pour dessert, on en parle, c'est ça. Voilà. Qui ressort un petit peu.
Bon, pas pour sa carrière, je pense qu'il ressort, c'est quand même ce qu'il a accompli sur la piste. Après, voilà, mais je pense qu'il a, c'est plus fort que lui, je pense qu'il a pour le coup, ça, il a toujours été comme ça. Et bah, évidemment, ça, alors, toute proportion gardée, ça me fait un peu penser à, vous avez vu le documentaire de Jordan, des Bulls sur The Last Dance, c'est qu'il n'y a pas d'égor sur Jordan, mais c'est un peu une façon de remettre toujours l'église au milieu du village et dire, bah, écoutez, avant eux, il y a eu moi. Voilà. Donc je pense que Lewis, il le fait à sa manière, avec une forme. Oui, comme tu dis, Laurent, d'aigreur qui se sent. Mais encore une fois, je pense qu'il est, pour le coup, il est fidèle au personnage qu'il a toujours été, c'est-à-dire un type qui n'est pas forcément hyper humble et qui comprend qu'il a été au moins le meilleur et qu'il a envie de montrer qu'il l'a été et qu'on ne l'oublie pas pour le coup.
Oui, il était surtout très, très égocentré, Carl Lewis. Et effectivement, ce n'est pas ce qu'il faut mettre en avant dans ce duel. Ce que j'aurais plutôt tendance à mettre en avant, et pour enfoncer un petit peu plus l'argument Bolt, c'est que si on prend les performances absolues, bah d'abord, Bolt, il est toujours au commandement du monde du 100 et du 200 actuellement, que si on additionne les performances et qu'on convertit les performances de Carl Lewis et de Usain Bolt à la table de cotation, forcément, Usain Bolt reste numéro 1. J'ai même vu aujourd'hui apparaître sur les réseaux sociaux un comparatif 100, 200, 400 du meilleur sprinter, des sprinters longs, puisque Norman vient de faire un 9,86 sorti presque de nulle part. Eh bien, au cumul à la table de cotation des meilleures performances sur 100, 200 et 400, Usain Bolt reste le numéro 1. Et peut-être si on prend juste les performances intrinsèques, si on additionne les temps, ce serait Michael Johnson qui passerait premier sprinter de tous les temps, ce que je ne pourrais pas accepter parce que être considéré comme le meilleur sprinter de tous les temps sans avoir fait moins de 10 secondes au 100 mètres, c'est juste pas possible. Voilà le dernier argument qu'on peut peut-être avancer sur la suprématie Bolt face à Lewis.
C'est Laurent.
Oui, non, encore une fois, je parlais des records tout à l'heure. C'est vrai que pour moi, achever sa carrière, je ne sais plus qui était recordman du monde du 100 mètres quand Lewis arrête sa carrière.
C'était Bailey.
C'était Bailey. Ouais. Voilà, donc, quand Lewis s'arrête, il ne détient aucun record. Pour moi, ça fait partie aussi quand même du leg d'un athlète, même si tous les athlètes le disent, et je pense que ce n'est pas Stéphane qui me contredira, le titre est toujours plus important que le record, parce qu'un titre, on l'a à vie, un record, on le perd forcément un jour. Mais quand on s'arrête, dire « Ok, ben là, ciao les gars, j'ai tous mes titres, mais allez chercher maintenant mon record du 100, du 200. » Car Lewis n'a même pas pu… Et du 4x100, mais bon, 4x100, bon, il faut aussi quand même être le fruit d'un grand pays de sprint, mais évidemment, Bolt, il a sa très grande part. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez curieux là, quand on regarde la carrière de Carl Lewis. C'est ce qui me fait dire qu'il était d'abord un athlète extrêmement complet, le plus grand sauteur en longueur de tous les temps, même s'il n'a pas eu le record du monde. Tu parlais de l'altitude, bon, c'est tout ce que. Où et comment a été battu le record de établit le record de Beamon. Mais je pense que voilà, Bolt, ses records, ils tiennent maintenant depuis. D'ailleurs, il les a lui-même pas battus hein, à la fin des années 2000. Il avait établi sa meilleure marque du 100, du 200. Il n'a jamais pu aller les chercher. Et je ne sais pas qui pourra aller les chercher. Après, il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu'on aura un phénomène qui arrivera dans 3 ou 4 ans. Mais il restera que quoi qu'il arrive, Bolt aura quand même été recordman du monde des 100 et 200 mètres pendant au moins, à mon avis, une quinzaine d'années.
Ce qui sert Bolt, c'est est-ce qu'il y a aussi ce côté, voilà, c'est plus frais, il y a l'air aussi médiatique qui fait que ça a amplifié énormément toutes ses performances. Avant Bolt, Lewis avait quand même été quelqu'un de très très important, une aura quand même grande sorte. Maxime, tu disais, pas forcément aux États-Unis, mais dans le monde entier, Carl Lewis, c'était quelque chose d'assez incroyable. Est-ce que là-dessus, on peut comparer les deux auras et les deux rayonnement à travers le monde?
Et c'est toujours compliqué parce qu'après, quand je dis aux États-Unis, c'est moindre, c'est-à-dire par rapport, parce qu'on sait que les États-Unis, il y a les sports co qui passent devant, mais c'est quand même une immense superstar. Je veux dire, c'est qu'il l'aurait été encore plus s'il avait été basketteur, pour faire simple. C'est toujours compliqué parce que c'est un peu quand on pose la question de parler de Jesse Owens, voilà, tu compares des périodes médiatiques qui n'ont rien à voir et c'est compliqué. Pour avoir au moins vécu les deux dernières, non pas celle de Jesse Owens, mais au moins Lewis, même si j'étais gamin, ouais, c'est quand même gigantesque, mais c'est sûr que c'est sans commune mesure, parce qu'à partir du moment où tu as l'ère des réseaux sociaux et tout ça, évidemment, l'amplitude prise par un Bolt est sans commune mesure, au moins de ce côté-là, parce que évidemment, tu n'as pas la même caisse de résonance, mais déjà à l'époque, c'était quand même exceptionnel. Stéphane l'a dit, il chante, Lewis, alors ça paraît anecdotique, mais il y a ce côté, c'est pas l'équivalent des réseaux sociaux, mais tu vois, cette incursion quelque part ailleurs.
Non, mais dans c'est, un c'est, ils sont le fruit de leur époque, comme
oui, exactement.
Et voilà, Lewis, c'était le fruit des années 80, qui était aussi une décennie de starification à tout va. Il a incarné tout ça. Moi, on parlait d'une coiffure à la Carl Lewis, par exemple. Dès que quelqu'un se coiffait comme ça, c'était la coiffure à la Carl Lewis.
Je me suis
c'était
fait.
Une très... J'aurais bien voulu voir ça. Non, c'était une très, très grande star. Et moi, je n'ai pas voulu mettre en avant spécifiquement le côté showman de Bolt. Moi, ce n'est pas ce que j'aime le plus chez lui, même si je trouve ça sympathique. Ça fait partie du personnage et surtout sa décontraction. Quoi. On l'a vu souvent avant des grandes finales. Avoir la banane à 30 secondes du starter, c'est un peu dingue. Donc, ça fait partie de sa légende. Mais moi, j'avais vraiment envie de m'arrêter à la performance pure aujourd'hui et à ce qu'ils ont accompli tous les deux sur la piste entre le gong de départ et la ligne d'arrivée, voilà, tout simplement.
Stéphane, je pensais à un de nos consultants, Arnaud Di Pasquale, qui nous avait raconté aux Jeux Olympiques que quand il avait côtoyé Usain Bolt, il y avait quelque chose d'incroyable de voir Usain Bolt à la cafette à côté de lui. Toi qui as pu côtoyer des athlètes, est-ce que Carl Lewis, il était avec les athlètes ou pas du tout, c'était vraiment un autre monde?
C'est ce qu'on a évoqué et c'est ce qu'il ne faut pas mettre en avant, c'est que Carl Lewis était la méga star des années 80. Quand on dit méga star, c'était à chaque fois la foule autour et il était inabordable. Alors que on ne le voyait pas dans les hôtels, il était à son niveau avec son team de l'époque. Donc c'est quelqu'un qu'on ne fréquentait pas, qu'on croisait, on était content de le croiser au terrain d'échauffement et encore. Alors que justement Usain Bolt, eh bien c'est un peu comme Rafael Nadal au village olympique, on l'a croisé, ceux qui l'ont vu à Rio croiser Nadal. Moi je me souviens de la Dream Team en 92 de NBA justement. Eh bien, il y avait quelques athlètes qu'on voyait, et moi, je me souviens de Barclay, parce que Barclay venait régulièrement au village, alors que Jordan, malheureusement, qui était mon idole, je le voyais moins. Donc, Carl Lewis était vraiment la représentation du système américain, puncher avec des mots provocateurs, comme les boxeurs le faisaient avant les confrontations, méga star, il s'est lancé dans le showbiz, etc. Alors que Usain Bolt, eh bien, il l'a fait de la même manière, mais beaucoup plus abordable, humainement, décontracté, avec... on se fait des photos sous bras, mais c'est, encore une fois, c'est des gens de leur époque. Donc, ce n'est pas ce que je mettrai en avant pour départager le plus grand sprinter de tous les temps. Et la piste a parlé pour moi, même si j'insiste, Carl Lewis, le plus grand sportif, athlète de tous les temps, incontestablement, et qui est le meilleur sprinter, c'est Bolt.
Une petite anecdote sur Bolt, une image qui m'avait beaucoup marqué à Rio, le soir de la finale du 100 mètres, donc après son troisième titre olympique sur 100 mètres. Les courses étaient très tard à Rio, je me rappelle, et il arrive en zone mixte. Donc la zone mixte, c'est l'endroit où les journalistes, les athlètes passent devant les journalistes pour répondre à toutes les interviews. Et Bolt arrive, il doit être 1h30 du matin, quelque chose comme ça. Et nous, journalistes non détenteurs de droits et presse écrite ou web, on passait donc après toutes les télés qui avaient les droits, les agences de presse, etc. Donc on était tout au bout, on attendait. Et je pense qu'on a attendu pendant plus d'une heure parce que non seulement il faisait beaucoup d'interviews, mais quelque chose que je n'ai vu qu'avec Bolt là-bas, il signait des autographes, il faisait des selfies avec tout le monde et même avec les militaires brésiliens. Je peux vous dire qu'il rigolait pas trop là-bas pendant les Jeux. J'ai vu les militaires l'appeler et faire des selfies avec lui. Donc il y a un côté, oui, c'est une vraie star et je trouve qu'il a quand même cette simplicité. C'est pas de l'acting, quoi. Je pense qu'il était vraiment comme ça. La décontraction totale.
Et aujourd'hui, dans tous les sports, on voit des athlètes faire. Il a laissé une griffe. Il a laissé quelque chose.
Mais c'est deux sportifs ultra charismatiques. Vraiment, c'était. Voilà.
Très bien, messieurs. Écoutez, merci d'avoir participé à ce numéro. On ne départagera pas Usain Bolt de Carl Lewis. Ou alors il y en a un qui remportera la catégorie sprint et l'autre qui remportera la catégorie athlète. Merci Stéphane, merci Maxime, merci Laurent. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Qui c'est le plus fort. En attendant, n'hésitez pas à noter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, d'Acast à Spotify en passant par Deezer ou Apple Podcast. Mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous des commentaires. À la semaine prochaine, salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.